Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette semaine de juillet. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous êtes désormais bien installé chez vous ou en route, peut-être encore dans votre voiture. En tout cas, vous êtes les bienvenus chez vous, car comme vous le savez, de 22h30 à 1h du matin, Europe 1, eh bien, c'est un peu votre maison, une maison que vous pouvez imaginer comme un salon ou une belle salle tamisée où vous venez parler, échanger, vous raconter et peut-être trouver des solutions à vos problèmes. Je pensais à la vie, cette vie qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier, car souvent je vous le dis ici, chaque jour à la fois, un jour à la fois, et essayer de vivre cette journée de la plus belle manière qui soit. Voilà, on va décider ça pour demain matin, tous ensemble, si vous voulez bien. Pour nous joindre, 39, 21, 50 centimes d'euros la minute, vos SMS, vos conseils, vos questions, vos recommandations au 7, 39, 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et puis, vous nous écrivez vos messages, vos mails pour préparer vos interventions à l'antenne à libreantenne@europe1.fr ou sur notre groupe de parole Facebook, Olivier Delacroix, Sabine Marin, la Libre Antenne. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que peut-être que ce soir, vous allez ressentir quelque chose là en vous et que vous allez vous décider à décrocher votre téléphone pour venir me parler. Cette libre antenne du lundi, c'est parti.
La libre antenne d'Europe 1.
Et nous accueillons Bénédicte au 39-21. Bonsoir Bénédicte.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Très bien, très très bien. Cette journée chaude.
Très bien. Alors vous nous appelez d'où Bénédicte ?
De Cholet.
De Cholet.
Dans le Maine-et-Loire.
D'accord. Donc il a fait chaud à Cholet aujourd'hui.
Il a fait très chaud à Cholet aujourd'hui, oui.
Bon. Alors dites-moi tout. Qu'est-ce qui vous amène ?
Alors ce qui m'amène, c'est des soucis de fertilité, comme beaucoup de femmes, de jeunes femmes, ou un peu plus âgées.
Oui.
Ça va faire 5 ans maintenant qu'on essaye d'avoir un enfant avec mon mari. Et je fais partie de ces femmes où on parle d'infertilité inexpliquée. Donc 5 ans de traitement et 5 ans de protocole et on n'a rien trouvé, c'est-à-dire qu'aucun souci du côté de mon mari ou de moi, mais toujours pas de grossesse ou d'enfant à venir.
D'accord, j'ignorais complètement ces infertilités inexpliquées. Je pensais qu'à chaque fois il y avait vraiment une réponse au fait que ça ne marche pas. Vous, il y a eu tout et les médecins ne trouvent rien.
Non, rien du tout. Tout va bien, comme on dit. Enfin, tout est parfait. J'ai souvent cette phrase, non, les échographies sont parfaites, les spermogrammes sont parfaits, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas.
Dans votre tête, en fait, comment tout ça se passe au bout de 5 ans ?
Dans la tête, c'est assez compliqué. Je suis quelqu'un d'assez positif. On a un couple assez positif et on a la famille, les amis autour de nous.
Oui.
Mais des ascenseurs émotionnels assez réguliers. Mm-hmm. Et on se veut de garder le sourire et de se dire que de toute façon, ça arrivera un jour ou l'autre, n'importe quel moyen. Un jour, il y aura un enfant. Mais c'est assez compliqué, assez dur. Il faut savoir aussi qu'on est très peu suivi en France du côté psychologique. C'est 5 ans de traitement, donc là on a arrêté le traitement au mois de novembre 2019, parce que aussi c'est compliqué au niveau du corps.
Oui.
Mais pendant tous ces traitements qu'on fait dans les hôpitaux, dans les cliniques, nous n'avons pas de suivi psychologique proposé. Et ça fait que maintenant un mois que j'ai décidé d'être suivie, mais autrement personne n'est là pour nous guider un petit peu dans ces étapes de vie assez compliquées.
Et ça, je trouve que c'est un vrai problème, parce que c'est un manque crucial, hein, je pense, dans l'accompagnement d'une maman et même d'un couple. ce qui se passe dans la tête d'une maman, l'ascension émotionnelle, comme vous dites. On en a déjà parlé ici sur cette antenne, et puis bien évidemment, j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de femmes qui suivaient le même processus, le même protocole que vous, et toutes me disaient que ça leur manquait profondément... même au niveau des médecins, en fait, un accompagnement un peu... Vous voyez, les mots, en fait, les mots qu'il faut trouver,
oui.
qui visiblement, d'après ce que moi j'ai entendu, reviennent toujours, mais ça n'est pas avec des « ça va aller », ne vous inquiétez pas, que...
C'est ça, tout est parfait, ça va
fonctionner. Il faut aller un peu plus loin que ça. Comment vous expliquez ça, en fait, les médecins qui vous suivent? Vous en êtes ouverte à eux? Vous leur avez dit que ça manquait dans ce chemin?
Non, jamais. C'est des choses qu'on... Au tout début du protocole, quand on y va, on ne pense pas à tout ça, à se dire, bon, il y a le psychologique qui va être touché. Et c'est au fur et à mesure qu'au bout de 3-4 ans, j'ai eu 13 traitements, tout ce qui est assez énorme sur ces 5 ans. Mais on s'en rend compte qu'après, de se dire, j'aurais dû être suivie. J'en ai jamais parlé à mes différents gynécologues parce que j'ai changé en cours de temps. C'est mon mari qui s'en est rendu compte aussi et qui m'a dit que les médecins ne s'adressaient qu'à moi. Et jamais à lui, alors qu'il était là à chaque réunion. Et il me disait, il ne s'adresse qu'à toi, donc on a l'impression que le problème est retourné vers toi, et moi je n'existe plus. Ouais, et non, ouais, je ne me suis jamais vraiment ouverte à ça, et parce qu'on fait confiance aussi.
Il faut.
Voilà, on leur fait confiance, heureusement qu'on leur fait confiance, que sinon ce serait compliqué, mais on fait confiance et puis on se laisse guider, et des fois les questions qui nous trottent en tête arrivent qu'après. Et on essaye de prendre le positif qu'ils nous disent, mais des fois c'est vrai qu'on voudrait bien travailler sur le côté négatif de nos pensées. Mmh. Mais malheureusement, ce n'est pas fait encore, ce n'est pas dans les protocoles, il n'y a pas un petit colloque, on nous propose pas en fait.
Quel type de questions vous viennent par exemple, en fait, que vous ne posez pas sur le moment et qui pourraient vous faire avancer?
Alors, les premières questions que je n'ai pas posées, c'était est-ce que je suis la seule? est-ce qu'on est beaucoup? Est-ce qu'il y a des groupes? Est-ce qu'on peut en parler à d'autres? Ça, c'est les questions que j'aurais voulu poser. Et puis après, c'était vraiment plus médical, c'est-à-dire. Pourquoi pourquoi ça ne fonctionne pas, vraiment toutes les étapes, tout ce qui se passe dans notre corps et qu'on ne sait pas en fait, sur les personnes qui tombent enceintes facilement, ne se posent pas toutes ces questions de l'ovocyte, de l'embryon, des blastos, enfin il y a plein de termes qui existent, et c'est toutes ces questions-là en fait, ou peut-être un cours aussi sur comment fonctionne l'anatomie pour se rassurer aussi de tout ça. Et tous ces symptômes qu'on ressent ou qu'on ne ressent pas ou qu'on se crée, et que j'aurais bien voulu poser à ce moment-là toutes ces questions aux gynécologues en disant mais pourquoi je ressens ça, pourquoi j'ai ça. Et puis quand le rendez-vous arrive une semaine, un mois après, on oublie cette question-là.
Mm-hmm. Par où êtes-vous passé depuis 5 ans donc?
Depuis 5 ans, on est passé, alors, au bout de 18 mois, j'ai arrêté la pilule, hein, c'est la première étape. Au bout de 18 mois, rien n'arrivait, donc je dis, on va aller voir quelqu'un. Et du coup, les tests sont faits, rien n'est trouvé, donc on va aider un petit peu donc, par la stimulation. Donc, c'est des piqûres d'hormones. Donc, j'ai eu 6 stimulations en 6 mois. Donc, 6 stimulations, ça veut dire qu'on nous met des. Je m'injecte des hormones. Et du coup, il y a des échographies et des prises de sang régulières. Et au moment où le médecin dit c'est bon, on peut y aller, donc on a des rapports qui sont contrôlés. Donc, pendant 6 mois, et il n'y a rien qui s'est passé. Et au bout des 6 mois, ben, on va passer à la FIV, donc directement, donc la plus grosse étape. Et moi, j'ai eu 2 FIV. Qui n'ont pas aussi abouti, mais sans réponse. Et là aussi, c'est des questions qui se posent de pourquoi mes FIV n'ont pas abouti, pourquoi j'ai si peu d'embryons. On me dit que j'ai pas de problème, mais il y a peu d'embryons. Donc ces FIV-là n'ont pas fonctionné. Donc on a décidé de changer de clinique, et la nouvelle clinique était un peu plus, on était un peu plus cocoonés.
Oui.
Et on a eu 3 nouvelles stimulations qui, qui n'ont pas abouti. Puis après, une insémination qui n'a pas abouti. Et là, je me suis dit stop. Mon corps a trop subi. J'ai entre guillemets que 31 ans et je ne sais pas ce qui va en devenir après de toutes ces hormones qu'on s'injecte.
Arrivé au bout de tout ça, est-ce que vous en êtes arrivé à penser tous les deux que vous alliez retenter pendant, je ne sais pas moi, un an à deux ans de faire comme si de rien n'était. Alors c'est compliqué, hein, bien évidemment, de faire l'amour régulièrement, d'essayer de vous sortir de ce, vous savez, de cette emprise médicale. Et est-ce que vous y croyez ça encore? Est-ce que vous devez appeler un miracle? Moi, ce que je n'appelle pas obligatoirement un miracle, je veux dire, moi, mon frère est venu vraiment. On avait dit à ma maman donc que c'était très difficile aussi. Je pense que c'était pareil, c'était assez inexpliqué. Mais je vous parle de ça il y a 46 ans maintenant. Donc on n'avait pas, tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Et je me rappelle que voilà, il est arrivé comme ça. Et que cette histoire-là, je l'ai entendu se répéter maintes et maintes fois, hein, parce que le mystère de la vie et de la naissance, peut réserver de cette surprise, hein, ce miracle. Est-ce que vous y croyez encore à ce moment magique là?
Oui, on y croit encore à ce moment magique. Il y a énormément d'histoires et qui sont véridiques, et j'en ai autour de moi de personnes qui n'y arrivent pas pendant des années et qui déménagent, qui changent de travail et qui tombent enceintes, où les femmes tombent enceintes à ce moment-là. Bon, j'ai changé 3 fois de boulot et on a déménagé une fois.
Ouais, ah oui,
c'est pas pour ça que je suis tombée enceinte. On n'a pas fait ça pour ça non plus. Mais j'y crois encore. Là, je vois une psy depuis un mois et demi. Et il y a une chose qu'elle m'a dit qui est importante, c'est de remercier mon corps que tout aille bien. Mm-hmm. De remercier cet utérus et cet ovaire qui sont parfaits. Et de me dire, si tout va bien, ça va arriver, mais quand, on ne sait pas. C'est pour ça que maintenant, il y a d'autres procédures pour avoir un enfant hors l'essai naturel actuel. Voilà, il y a d'autres procédures, la GPA, l'adoption. Et oui. Qui, là, nous tend les bras pour nous dire on va s'orienter vers ça. Et peut-être qu'un jour aussi, un bébé naturel arrivera, mais au moins, on est sûr de pouvoir aimer un enfant et de pouvoir éduquer comme il faut, même si on ne sera pas passé par les étapes de la grossesse.
Et justement, là, maintenant, en fait, vous tendez vers quoi? Plutôt la GPA ou
plutôt la GPA.
Plutôt la GPA.
Mmh. On tend vers la GPA, ce qui nous libère aussi énormément l'esprit, de se dire que cet enfant qui sera le nôtre va arriver un jour. Et oui, on se tend vers la GPA, c'est ce qu'il y a de plus, pour nous, de plus simple. J'aime pas ces termes-là de simplicité, mais c'est ce qui nous intéressait le plus, c'est vers ça qu'on s'est tourné il y a un an maintenant.
Parce que, je sais que je vais peut-être vous poser une question qui va vous paraître curieuse, mais pas mal de nos auditeurs et nos auditrices ne savent pas encore vraiment complètement ce que c'est que la GPA. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le processus? Parce que moi, je le connais pour avoir travaillé dessus en tant que journaliste, mais je sais que bon nombre ignorent encore par quel processus on fait pour la GPA, qui est une grossesse procréation. Assister, c'est ça?
C'est ça, exactement. Par autrui.
Par autrui, pardon. Oui. Par autrui.
Donc, tout simplement, c'est de faire un choix d'une mère donneuse, donc qui va donner ses ovocytes, et d'avoir les spermatozoïdes de mon mari,
oui.
Et qui vont être mis dans une mère porteuse. Et cette mère porteuse va porter notre enfant pendant 9 mois. Et au bout des 9 mois, nous irons dans un pays qui est l'Ukraine pour accueillir notre bébé et l'adopter. Enfin, pour moi, l'adopter, et puis pour Marie, sera le père naturel.
D'accord.
Dans la simplicité, c'est ça la GPA.
D'accord. Mais de toute façon, ça sera simple dans votre tête à vous si vous décidez vraiment pour cette solution et que vous allez... au bout, tranquillement, naturellement, parce que c'est aussi un, c'est aussi un chemin de vie hein, pour cet enfant qui est le vôtre et qui va oui. arriver par ce processus qui aujourd'hui, s'il existe, fait le bonheur de nombreux parents.
De nombreux parents.
Il ne faut pas
on
oublier. Je sais que,
parents,
bien évidemment, cela suscite un débat particulier. Beaucoup de personnes sont descendues dans la rue, oui. certaines sans savoir vraiment, pourquoi. Alors, je dis ça, c'est parce qu'en fait, si on s'arrête à dire « Oh là là, tout ça n'est pas naturel », mais aujourd'hui, dans notre société, en fait, on a, oui, alors certains y voient le forçage de la nature, et moi je vois, et nous sommes beaucoup à y voir l'intelligence suprême de l'homme qui arrive à créer la vie pour justement tous ces parents qui ont aujourd'hui une difficulté dans l'époque qui est la nôtre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, beaucoup de parents ont du mal à avoir des enfants parce que tout ce qu'on mange, tout ce qu'il y a dans ne serait-ce que dans tout ce qu'on bouffe, hein. Je dis on bouffe parce que c'est ça que ça me donne comme impression.
Et surtout notre époque à nous.
Surtout notre époque à nous a rendu très infertile beaucoup de jeunes parents. Et donc, voilà, c'est ce pourquoi je m'oppose à ce côté je force la nature. Parce que si on l'avait laissé tranquille, la nature, peut-être on aurait moins cette problématique-là. Or, cette problématique-là est apparue et est devenue de plus en plus importante. Donc, moi, en tout cas, pour vous assurer et vous rassurer si vous ne l'êtes pas, mais vous le semblez l'être, mais on a toujours un petit... J'ai deux amis, deux couples d'amis, qui ont des enfants par GPA et qui vivent un bonheur immense. Il n'y a même plus cette question-là dans... Vous voyez, dans... Enfin, je ne ressens plus cette question-là au cœur de leur... pas de l'amour, mais de leur histoire, en fait, voilà.
Oui.
Cet enfant, il est là et il ne leur laisse pas vraiment le temps aux uns et aux autres de réfléchir à toutes ces choses-là. Ces petits bouts-là, ils poussent, ils sont magiques. Et puis, les enfants, ensuite, entraînent les parents à moins de gamberge et dans la vie. Non, mais c'est une solution. Je pense qu'elle est... Elle est importante, cette décision que vous allez prendre. Et en plus, elle est très différente de l'adoption, quand même, parce qu'il y a... Il y a un chemin de vie que vous allez faire avec la mère porteuse, la mère donneuse.
Oui.
C'est tout de même le sperme de votre mari aussi. Et donc, du coup, il va y avoir un accompagnement qui va faire, qui est de l'ordre de la famille, hein, d'une petite unité familiale qui va se créer là, comme ça, d'un seul coup, et qui va donner lieu à... qui va donner vie à un ou une petite princesse, quoi. Donc,
ce sera une vraie petite princesse ou un vrai petit prince, je pense.
Et parfois, il y en a deux, vous êtes au courant. Hein, que...
Oui, il y en a deux.
Vous l'avez voulu, donc vous allez peut-être avoir le gros lot.
Oui, c'est ça, on attend que ça, hein, même si la fatigue sera là et on sera heureux d'être fatigué pour ça, il n'y a aucun problème. Mm-hmm.
Est-ce que c'est quelque chose dont on parle autour, à part avec... La famille, est-ce que lorsque on est une jeune femme de 30 ans comme ça et qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants, est-ce que c'est on ressent la pression de la société, le regard des autres femmes, comment est-ce que vous interprétez tout ça?
On le ressent totalement. Moi qui travaille dans un milieu où je croise énormément de personnes, je fais l'accueil d'un club de sport, donc je croise beaucoup de personnes qui me demandent souvent, qui me connaissent, qui connaissent mon âge. Et qui me dit, mais du coup, tu n'es pas maman, pourtant, t'as 31, 32 ans. Ben non, je ne suis pas maman. Après, on ne va pas dans les explications, il y a des gens qui le comprennent. Alors, les gens qui le comprennent, souvent, l'ont vécu, soit par une sœur, soit l'ont vécu eux-mêmes, soit par quelqu'un d'autre, un ami. Mm-hmm. Mais il y a ça, qu'il y a cette pression un petit peu sociale.
C'est dingue, hein, cette pression. Vous voyez, moi, je ne me permets jamais de dire « Bah alors, c'est pour quand le bébé? Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble ?» Vous voyez, c'est le genre de réflexion qui ne me viendrait pas à l'idée. Et je ne sais plus avec qui je parlais aussi l'autre jour de... elle est courageuse. Hein. Vous savez, quand vous... Voilà, certaines personnes essaient d'être gentilles, hein, veulent vous témoigner, et puis vous disent, dans une situation où vous avez, vous avez un problème à y arriver... « Oh, mais il est courageux. Hein, » voilà, comme si vous étiez... Bon, vous aviez besoin de ce genre de réflexion. Donc, c'est vrai que la société met un poids énorme. Et autour de la grossesse, je trouve que... et de la naissance, aujourd'hui, il y a un poids énorme.
Oui, c'est complètement
sur les mamans, sur l'allaitement, sur tout ça, là.
Mais en ce moment, on revient beaucoup sur aussi les personnes, les femmes qui ne veulent pas tomber enceinte. Donc, on est vraiment sur ce mouvement-là en ce moment de laisser-nous tranquilles un petit peu, laisser-nous faire nos vies et puis poser toutes ces questions, oui, qui sont un petit peu en plus intimes, mais qui, pour des personnes, paraissent naturelles ou bienveillantes, mais qui peuvent faire un peu de mal ou repenser à ça. Mais j'en veux pas à ces gens-là.
Non, on peut pas.
On peut pas en vouloir aux gens.
Non, il y a une pression qui s'installe comme ça et qui n'est pas, bien évidemment, voulue de la part de la société, mais qui parfois doit être pénible à vivre. Et alors, ce projet, il est pour quand maintenant ? Vous me parliez de l'Ukraine, donc ça veut dire que vous avez certaines pistes maintenant.
On a certaines pistes. Ce qui a été repoussé dû au confinement, malheureusement. Mais c'est pas grave, ça nous... on n'est plus à quelques mois près. Mm-hmm. Ce projet va se concrétiser normalement dans le mois d'août. Dans les mois à venir, on attend juste la validation de pouvoir y aller. Donc normalement, là, l'Ukraine a ouvert ses frontières, en espérant qu'elle ne les referme pas.
D'accord.
Et puis il y aura juste à y aller pour que mon mari puisse faire le nécessaire, et puis après que tout découle, et puis qu'on nous appelle en disant ben ça y est, c'est implanté, et puis 3 mois après, la grossesse est validée, et puis voilà.
Et pourquoi l'Ukraine ? Pourquoi l'Ukraine ?
Alors l'Ukraine, d'un point de vue financier, est plus intéressant que d'autres pays comme le Canada ou les États-Unis.
Oui, où je rappelle qu'un bébé aux États-Unis ou au Canada peut. C'est à partir de 130 000 euros, 120 000 euros, c'est ça,
c'est
non ?
C'est ça, exactement. Ouais. Donc, il faut diviser l'Ukraine par 2, voire 3.
Oui. Ah oui, carrément. Donc, bon.
Oui.
Oui.
Oui, voilà. Donc, c'est quand même assez important. Et en plus, c'est plus proche aussi. Et puis, bien sûr, on a des amis à nous qui sont passés aussi par là et qui nous guident et qui nous aident dans ce projet-là aussi. Donc,
d'accord.
Eux qui ont leur petite fille depuis un an. Et donc, c'est aussi encourageant d'avoir un couple d'amis qui passe par le même organisme. Mmh. Et c'est rassurant.
Ça doit être énorme pour vous, ça, le fait d'avoir des gens proches qui sont déjà passés par où vous allez passer, je pense que ça va vous faire sauter quelques angoisses quand même.
Oui, je pense que déjà au niveau de la réflexion, ça nous a fait sauter quelques mois, voire peut-être une année. Ça a été assez rapide. Enfin, la décision, ça fait longtemps qu'on en parle, mais de les voir eux, de voir leur fille, on s'est dit, c'est ça qui... On va passer par là et puis on sera accompagnés par nos proches. Mmh.
Toutes mes félicitations en tout cas, parce que je sais qu'après, si vous voulez, pour avoir un peu approché la question, j'ai rencontré tous ces... parce que j'ai fait un film sur les nouvelles parentalités il n'y a pas longtemps, et donc bien évidemment, j'ai rencontré des parents qui étaient passés par le même chemin que vous allez entamer. Et je voyais... alors on va parler poliment de tabou. Et puis moi, je rajouterais l'hypocrisie qu'il peut y avoir autour de tous ces bébés qui naissent comme ça aujourd'hui par ce principe, par ce processus, et voir après toute la démarche administrative pour que ces bébés deviennent français en fait, et puis que la maman ou le papa devienne le papa ou la maman officielle, parce qu'il n'y en a qu'un au début qui peut, et tout ça fait un peu froid dans le dos parce qu'on sait très bien que dans 3 ans, 4 ans, ou peut-être 2 ans, on votera tout ça, et que tout ça sera sûrement chez nous. De toute façon, ça, vous savez comment nous sommes les Français, on vient à peu près entre 5 et 10 ans après les États-Unis. Donc les États-Unis viennent de légaliser la marijuana depuis à peu près 2 ans, donc on devrait y arriver dans 5 ans à peu près. Et ça sera pareil pour la GPA, ça sera pareil pour tout un tas de choses. Et on est toujours en retard, vous voyez, sur... Mais bon,
on veut voir ce qui se passe ailleurs et puis on décide après.
En même temps, vous ferez figure de pionnier. Et cet enfant pourra revendiquer et dire « Moi, je faisais partie de cette génération où c'était encore un combat pour une liberté, celle d'être parent. » Non, c'est génial. Vous allez vivre de sacrées émotions, je pense.
Je pense, oui. Je pense. Et puis notre enfant en sera plus fort aussi. Et fier sûrement de ses parents plus tard aussi d'être passé par là. Donc... Donc c'est quelque chose qui me motive beaucoup et c'est un parcours différent, un combat différent, mais c'est un beau combat qui nous attend. Ouais.
Vous me disiez que vous aviez été accompagné par les vôtres, donc vous avez été amené à parler du processus de la GPA. Vous avez senti quel type de réaction ? Curiosité, parfois malaise ou dites-moi ?
Alors, nous, notre but était que nos parents soient en accord avec nous et nos frères et sœurs. Donc, c'est eux qui ont été avertis en premier. Et ça a été que du bonheur de la curiosité, mais pas de malaise, pas du tout de malaise. Des questions sur comment ça va se passer. Et donc, on leur a tout expliqué, on leur a montré le contrat. Donc, alors, il y a un contrat quand même qui est fait. Et on leur a tout expliqué, toutes les étapes. Et la simplicité, entre guillemets, des choses les a rassurés. Et en se disant, oui, ben, ce sera leur bébé, et puis on sera heureux pour eux. Et je pense que de nous voir aussi pendant 5 ans franchir ces montagnes russes, c'était simple. Pour eux, ça disait, oui, c'est ça qu'il leur faut, enfin... S'ils le sentent maintenant, c'est qu'il faut le faire. Donc, on a eu vraiment que des personnes autour de nous, enfin, nos frères et sœurs et dans nos parents qui étaient totalement ouverts et pressés que tout se passe. Et ils sont toujours derrière nous pour ça. Et ça, c'est aussi un gros soutien parce que je pense que tout le monde n'a pas cette chance-là.
Tout le monde n'a pas cette chance-là, c'est clair. Ouais. Et il est sûr que lorsqu'on voit quelqu'un de proche comme ça désirer... cet enfant qui n'arrive pas. 5 ans, c'est long. Hein. Vous êtes très courageuse quand même. Enfin, vous êtes courageux tous les deux. Mais je dis courageuse parce que c'est quand même votre corps qui a reçu les hormones et tout ça. Donc voilà, c'est tout de même... Il y a une petite partie en plus qui est très contraignante hein, pour les femmes. Donc 5 ans, c'est... Et moi, en tout cas, voilà, je trouve que vous prenez la bonne décision et un peu de répit. Et puis encore une fois, bon... Si vous avez frappé à la bonne porte, si vous cherchiez, je ne sais pas quoi, peut-être vous ne cherchiez pas rien particulièrement, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une aventure de vie formidable, que voilà, pour encore une fois, pour avoir des proches qui sont passés par là, ça n'est que du bonheur et c'est tout ce que je vous souhaite à tous les deux. Voilà, ma chère Bénédicte.
Merci beaucoup, Olivier.
Eh bien, n'hésitez pas tout de même à nous dire quand tout ça sera... Hein, concrétiser et nous passer un petit coup de fil.
Aucun problème.
D'accord.
Il n'y a aucun souci. S'il y en a 2, 3,
on fêtera ça ensemble.
Il n'y a aucun problème.
Passez une bonne soirée, Bénédicte, et saluez votre mari pour nous.
Merci beaucoup, je lui passe.
Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.